Chers auditeurs de Radio Grand Ciel, bonjour. Claire Tiercelin vous retrouve aujourd'hui pour la demi-heure mensuelle de l'association Église ouverte en Eure-et-Loir dans le cadre des saints du diocèse. Le personnage dont nous allons parler n'est pas un saint, pas pour le moment, mais sa cause est à l'étude à Rome. Il s'agit de l'abbé Frank Stock, bien connu en Eure-et-Loir pour avoir dirigé le séminaire des Barbelés à la fin de la guerre. Pour cela, j'ai invité M. Hubert Briand, délégué à Chartres de l'Association des Amis de Frank Stock, et qui est très compétent pour nous parler de ce prêtre allemand. Bonjour M. Briand.
Bonjour.
Pouvez-vous nous dire rapidement où en est actuellement le dossier de béatification de Frank Stock ?
Alors le dossier a été transmis à la fin de l'année, en novembre 2013, donc à la Congrégation pour la cause des saints à Rome. On est en situation d'attente.
Bon, alors nous attendons, espérons, pas trop longtemps encore. Nous allons évoquer avec vous les différentes parties de la vie de Frank Stock. Comment ce prêtre, né en Allemagne en 1904 et mort en France en 1948, à l'âge de 44 ans, a pu toucher les cœurs et être reconnu comme un personnage hors du commun. Monsieur Briand, quand et comment Frank Stock arrive en France pour la première fois ?
Frank Stock est venu en France en 1926 avec le groupe de jeunes auquel il appartenait, le groupe du Quickborn, à l'invitation du mouvement Le Sillon qui organisait chaque année un rassemblement de jeunes justement en faveur de la paix. Ce rassemblement est organisé à Bierville en 1926. Bierville, c'est la propriété familiale de la famille de Marc Sornier, à Boissy-la-Rivière, près d'Étampes. Et c'est là que Frank Stock vient donc avec ce mouvement de jeunes pour la première fois répondre à cette invitation. Il sera là accompagné de 10 000 jeunes de 33 nationalités différentes.
Ensuite, il va repartir en Allemagne ?
Il repart en Allemagne, il fera plusieurs allers-retours à partir de ce moment-là, parce que c'est là où il va se lier d'amitié avec pas mal de jeunes Français, s'intéresser profondément à deux provinces particulièrement, la Bretagne d'une part et le Limousin d'autre part. Donc il aura beaucoup de liens d'amitié avec des jeunes Français qui vont le lier. Contrairement à ce qui était à craindre, l'Allemand n'est pas rejeté à ce moment-là par cette jeunesse française, bien au contraire.
Après son ordination, je crois qu'il revient à Paris, à la paroisse allemande.
Oui, auparavant, il avait déjà fait 3 semestres d'études à l'Institut catholique de Paris, sous la direction de l'abbé Verdier, qui deviendra ensuite cardinal-archevêque de Paris. Et c'est Monseigneur Verdier, donc, qui en 1934, 2 ans après l'ordination de Frank Stock, lui demande de prendre en charge ce qu'on appelait à l'époque la mission de langue allemande, c'est-à-dire en gros la paroisse allemande de Paris.
Alors, nous allons évoquer maintenant un grand moment de la vie de Frank Stock. Elle concerne sa mission d'aumônier de prison pendant la guerre, où il a pris des risques énormes pour soutenir et accompagner à la mort nos résistants français, pour soutenir les familles et tous ceux qui étaient dans la peine à cette époque-là.
Oui, lorsque la résistance française est entrée en action à partir de 1940, de fin 1940, après l'appel du général de Gaulle, il a commencé à y avoir dans les prisons allemandes de Paris un certain nombre de résistants. Et ces résistants, bien entendu, pour beaucoup d'entre eux, étaient chrétiens à l'époque. C'était surtout les mouvements gaullistes. Donc les Allemands ont autorisé l'aumônerie à agir auprès de ces prisonniers. Seulement, ils n'ont pas voulu que ce soit l'aumônerie française qui intervienne pour des questions évidentes de, en tout cas aux yeux de la Gestapo, des questions évidentes d'espionnage. Ils ont donc confié cette tâche à un ministre du culte allemand, en l'occurrence, c'est l'abbé Frank Stock qui a été désigné pour remplir cette mission auprès des prisonniers français.
Alors il a pris beaucoup de risques en soutenant ces prisonniers, puisque étant allemand, il aurait pu être dénoncé.
Au départ, sa mission était uniquement une mission de prêtre, d'assistance à ses prisonniers, mais peu à peu, les liens d'amitié se sont créés entre eux, malgré les méfiances qu'il y avait au début. Des prisonniers qui voyaient venir à leur contact un prêtre allemand, évidemment, ne lui faisaient pas confiance dans cet environnement immédiat de l'invasion de la France. Mais peu à peu, Franz Stock a su se faire accepter, se faire admettre des prisonniers chrétiens, et le bouche à oreille a fait le reste pour que cette mission dépasse largement sa mission de prêtre, en fait.
Alors parlez-nous de quelques prisonniers, on va dire un peu célèbres, au milieu de tous ces anonymes qu'il a pu soutenir.
Mais il y en a de nombreux, de bien connus, en l'occurrence le commandant d'Issiendorf, par exemple, qui a été l'un des principaux paroissiens, entre guillemets, de Franz Stock. D'autres personnages, comme Edmond Michelet, grâce auquel, d'ailleurs, on a un témoignage assez comique, si on peut dire, de son intervention auprès des prisonniers, puisque, je peux peut-être le citer, à l'issue d'un interrogatoire, Edmond Michelet, qui ne cédait pas aux injonctions de la Gestapo, était menacé, et menacé surtout de s'en prendre à sa famille. Franz Stock, ayant appris cela, évidemment, va se rendre auprès d'Edmond Michelet à l'occasion d'une prière en présence d'une sentinelle allemande, mais une prière un petit peu spéciale, puisqu'elle va être émaillée de renseignements personnels. « Je vous salue Marie, votre femme est venue me voir hier, pleine de grâce, vos enfants sont en sécurité », enfin, etc. Et que ça nous image un petit peu l'action du personnage. Ensuite, ce sera des contacts que les prisonniers oseront lui demander de prendre avec leur famille qui est à l'extérieur, mission qu'ils n'avaient pas le droit de faire, bien entendu, et qu'ils devaient systématiquement refuser pour le faire quand même. Et la réaction, évidemment, inverse, c'est-à-dire que les familles ayant eu des contacts avec la prison par l'intermédiaire de Franz Stock venaient aussi au-devant du personnage pour lui demander d'agir ou d'avoir des renseignements ou de pouvoir obtenir différents avantages auprès des autorités.
Alors là, on est dans la prison. Ensuite, son action a été, je crois, au Mont Valérien, lorsqu'il accompagnait ses résistants, ses juifs ou autres personnages à la mort.
Alors évidemment, beaucoup de ces personnages qu'il fréquentait en prison étaient souvent condamnés à mort. Certains étaient condamnés à mort par des tribunaux, d'autres étaient simplement victimes du phénomène des otages, c'est-à-dire pris au hasard pour venir se faire exécuter en vengeance d'une opération organisée par la résistance. Et donc là, Franz Stock va faire un travail effectivement épuisant, puisque il a sa mission qui s'étend sur 3 prisons parisiennes, le Cherche-Midi, la Santé et Fresnes. Et les exécutions se passent en différents lieux de la ville de Paris et les environs, en l'occurrence le Mont-Valérien à Suresnes, par exemple, ou le champ de tir de l'aviation Place Ballard à Paris, enfin, et d'autres endroits encore. Et là, Franz Stock aura cette mission lourde, extrêmement lourde, de préparer d'une part, mais aussi d'accompagner jusqu'au bout ses résistants ou ses otages qui sont victimes de la barbarie nazie.
Et les autorités ne se sont jamais aperçues de son rôle ?
Alors il semblerait que les autorités soit ne s'en soient jamais aperçues, soit c'était des autorités suffisamment compatissantes pour plus ou moins laisser faire, mais enfin, il faisait preuve quand même d'une adresse assez particulière et d'une prudence très particulière également, même s'il était, on le sait, de temps en temps aidé par des gardiens ou des soldats allemands qui eux-mêmes étaient opposés à cette barbarie.
Alors, quand s'arrête son action dans les prisons ?
Son action s'arrête dans les prisons avec la libération de la France, avec la libération de Paris, plus exactement, au mois d'août 1944.
Et qu'est-ce qu'il devient à ce moment-là ?
Alors, à ce moment-là, contrairement à ce qu'il aurait pu faire, c'est-à-dire quitter Paris, il va décider de rester à Paris et se mettre au service des malades et des blessés allemands qui sont à l'hôpital de la Pitié, en attendant l'arrivée des Alliés, qui cette fois-ci en feront un prisonnier.
Donc il devient prisonnier alors qu'il a aidé nos compatriotes.
Oui, alors il devient prisonnier, on a dit prisonnier volontaire plus exactement, il se laisse volontairement faire prisonnier, ce qui ne change pas grand-chose, et ce sont les Américains qui vont le transporter en avion dans un camp de Cherbourg où il va rester quelques mois.
Et maintenant, une pause musicale. Thank you. Vous êtes bien sur Radio Grand Ciel. Claire Tiercelin vous retrouve aujourd'hui pour la demi-heure mensuelle de l'association Église Ouverte en Eure-et-Loire dans le cadre des saints du diocèse. Le personnage dont nous parlons aujourd'hui n'est pas un saint, pas pour le moment, mais sa cause est à l'étude à Rome. Il s'agit de Frank Stock, bien connu en Eure-et-Loire pour avoir dirigé le séminaire des Barbelés à la fin de la guerre. C'est M. Hubert Briand que j'interviewe aujourd'hui. M. Briand, nous allons évoquer maintenant cet épisode de la vie de Frank Stock, celle du séminaire des Barbelés, séminaire situé tout près de Chartres, dans les baraquements militaires du Coudray-Morançais. Alors, quand commence cette aventure ?
Alors, cette aventure commence en réalité non pas au Coudray, mais à Orléans, où est mis en place à partir du mois d'avril 1945 un séminaire pour des étudiants en théologie prisonniers de guerre de l'armée allemande. Cette initiative vient à la fois du général Boisseau, qui était le directeur général des prisonniers de guerre, et de l'abbé Rodin, qui était l'aumônier général du culte catholique pour l'ensemble des armées à l'époque. Ce séminaire donc va commencer à fonctionner sous la direction de Franz Stock à partir du mois d'avril 1945 dans l'un des rares camps de prisonniers de guerre qui appartenait à l'armée française. Et ce n'est qu'au bout de quelques mois, devant les difficultés posées par différents facteurs à Orléans, différents facteurs qui proviennent d'une part de contacts difficiles entre les prisonniers de guerre et les gardiens français qui étaient pour la plupart issus de la résistance et n'avaient pas de véritable formation militaire. D'autre part, une difficulté de contact entre les étudiants en théologie qui sont considérés comme relativement favorisés par rapport aux autres prisonniers de guerre qui sont, eux, astreints au commando de travail. Donc les difficultés du camp d'Orléans sont prises en compte par l'administration et particulièrement par l'abbé Georges Lemeur qui avait été désigné comme aumônier général des prisonniers de guerre. C'est à l'initiative de l'abbé Georges Lemeur et du commandant du camp d'Orléans, le commandant Gouru, qui va être muté à Chartres au mois de juin 1945, que le transfert du séminaire aura lieu donc d'Orléans à Chartres.
Alors, donc, le séminaire est installé dans ces fameux baraquements que l'on voit toujours hein, sur la route, de Chartres à Dame-Marie. Comment se passe la vie dans ce camp ?
Alors, c'est une vie un peu particulière pour ces prisonniers de guerre, qui sont assez peu nombreux quand ils arrivent hein, d'Orléans. Ils ne sont que 135, qui vont être très vite rejoints d'ailleurs par d'autres prisonniers qui vont augmenter les effectifs assez considérablement. Puisque les cours vont commencer d'ailleurs dans ce séminaire au mois de septembre 1945, où ils seront ouverts officiellement par Mgr Arsquet, l'évêque de Chartres. Et à partir de ce moment-là, ils sont déjà plus de 300. La vie est un peu particulière. Selon les témoignages que l'on a pu recueillir des différents prisonniers qui étudiaient là, c'était une vie monacale, ce qui est un petit peu inattendu pour des séminaristes qui en général vivent une relative liberté, on pourrait dire, alors que là, c'était la claustration obligatoire et nécessaire.
Et qui étaient les professeurs ?
Alors, un certain nombre de professeurs avaient été choisis dans les camps d'officiers, dont le camp de Mulsanne, à côté du Mans, et dans d'autres camps, y compris même au Coudray. Mais ce nombre de professeurs était insuffisant, ce qui fait que l'abbé Georges Lemeur, l'aumônier général des prisonniers de guerre, donc va prendre contact avec les universités allemandes et obtenir particulièrement de l'université de Fribourg en Brisgau, qu'un certain nombre de professeurs civils soient détachés dans ce séminaire.
Alors je crois que Mgr Roncalli, le futur Jean XXIII, est venu plusieurs fois rendre visite à Frank Stock et aux séminaristes.
Oui, déjà dès le début de l'année 1945, lorsque Mgr Roncalli venait d'arriver comme nonce apostolique à Paris, il avait appris la mise en œuvre de cette particularité qui consistait à faire étudier des prisonniers de guerre, dans ce qui va d'ailleurs devenir une faculté de théologie par la suite, chose complètement inattendue, unique au monde et complètement inattendue. Et devant la grandeur de la démarche, si on peut dire, il va décider de s'y associer et d'obtenir le soutien, non seulement le sien, mais aussi celui du Vatican, pour pouvoir faire fonctionner cette opération considérée à l'époque comme impossible.
Et certains séminaristes ont été ordonnés au séminaire ?
Alors, il y a eu très peu d'ordinations au séminaire, puisque pour beaucoup d'entre eux, ils arrivaient là en début ou en cours de parcours de séminaristes. Donc, étant donné que la durée de leur présence aurait été au maximum de 2 ans, il est évident que tous n'ont pas terminé leurs études. Pour ceux d'entre eux qui les avaient terminés ou qui les ont terminés en cours de route, il y a eu 12 ordinations, il y a eu 8 diacres et 4 prêtres qui ont été ordonnés, dont 2 par Angelo Roncalli lui-même d'ailleurs.
Et par la suite, je crois que certains prêtres sont même devenus évêques dans les jeunes qui ont été accueillis à Morançais.
Oui, 4 d'entre eux sont devenus évêques par la suite, dont 2 de plus d'ailleurs, 4 évêques et 2 supérieurs de congrégations religieuses.
La vie n'était pas très facile dans ce camp, les garçons avaient faim, froid. J'avais entendu parler, il me semble que certains sont partis au Thieulin, ils ont été accueillis, certains d'entre eux, pour aller se refaire un peu une santé.
Oui, alors au Thieulin se trouve le château du Thieulin, le château de Lignerolles, qui appartenait à la comtesse de Malherbe. Et la comtesse de Malherbe avait mis son château et la ferme qui y attenait à la disposition du séminaire. Alors évidemment, officiellement, c'était le commando de travail, ceci pour éviter un peu les problèmes de jalousie avec les autres prisonniers qui, considérant que ceux-ci ne travaillaient pas. Mais en réalité, le château du Thieulin est vite devenu le sanatorium du séminaire et Franz Stock lui-même y faisait de fréquents séjours parce qu'il était déjà complètement épuisé par ce qu'il avait vécu les années précédentes et donc sa santé était déjà extrêmement chancelante.
Et quelles étaient les relations du séminaire avec le clergé local, l'évêque, les vicaires généraux ?
Eh bien, à Chartres, contrairement à Orléans, le clergé local, et particulièrement l'évêque Mgr Arsquet, a accueilli à bras ouverts, disons, cette chance qui lui était offerte d'abriter ce qui allait devenir le point de départ d'une Europe de paix par la suite, hein, mais ça, il ne savait pas encore, probablement.
Et la population ? Est-ce que la population de Chartres ou des environs était au courant de ce qui se passait au Coudray ?
Alors officiellement, non. On avait voulu éviter les problèmes qu'on avait rencontrés à Orléans, où la population était opposée à cette faveur extrême faite à des Boches et non pas à des Allemands. Et donc on a voulu, pour éviter cela, garder une certaine confidentialité autour de cette opération.
Alors quand est-ce que le camp va fermer, le séminaire va fermer ?
Alors le séminaire fermera un an avant, un petit peu plus d'un an, même avant le camp. Hein. Le séminaire va fermer le 5 juin 1947.
Alors donc à ce moment-là, les prisonniers étaient autorisés à retourner chez eux donc.
Ils vont être renvoyés chez eux, maintenant ils vont complètement être libérés de leur statut de prisonnier et devenir, pour ceux qui avaient été ordonnés par exemple, ils vont prendre des fonctions dans leur diocèse ou dans leur paroisse. Quant à ceux qui n'avaient pas achevé leurs études et qui désirent encore les poursuivre, ce qui ne sera pas le cas de tout le monde, ils vont pouvoir les finaliser dans les universités allemandes auxquelles ils appartenaient auparavant.
Et que devient Franz Stock à ce moment-là ?
Alors là encore, une fois de plus, Franz Stock ne repart pas en Allemagne. Décidément, il est collé à la France. Il reste à Paris parce qu'il avait l'espoir de devenir l'aumônier des travailleurs libres. Ces anciens prisonniers de guerre qui avaient obtenu un statut en signant un contrat de travail avec leurs employeurs. Malheureusement, moins de 8 mois plus tard, Franz Stock va mourir d'épuisement à l'hôpital Cochin à Paris. Et il n'avait pas 44 ans, effectivement.
Et alors, dans un premier temps, il va être enterré très discrètement ?
Oui, les autorités en place à l'époque vont interdire de publier son décès. Ça va être gardé comme un secret d'État, ça va devenir confidentiel. Il y avait plusieurs raisons à ça. D'abord parce qu'il était prêtre et que pour la plupart des gouvernants de l'époque qui étaient originaires de la résistance communiste, il fallait donc pas trop en parler. D'autre part, c'était un Allemand, il fallait encore moins en parler. Et administrativement, il était toujours prisonnier de guerre, donc ça aussi, il ne fallait pas qu'on en parle.
Alors, comment expliquer que le corps de Franz Stock soit aujourd'hui dans la chapelle de Rochèvre ?
Ah, il aura beaucoup bougé après son décès, effectivement, parce que déjà, quelque temps après avoir été enterré sous un tas de terre et une croix de bois dans le cimetière de Thiers, Il faut noter quand même que l'année suivante, le 3 juillet 1949, à la demande de pas mal de mouvements de résistance, on va célébrer un office solennel à sa mémoire à Saint-Louis des Invalides. Et l'année suivante, à la demande de l'abbé Georges Lemeur, l'ancien aumônier général des prisonniers de guerre, une souscription va permettre d'acheter et de financer une véritable sépulture, une véritable stèle, toujours au cimetière de Thiers d'ailleurs. Cette sépulture qui va être consacrée par le cardinal Felletin, archevêque de Paris, en 1959. Et quelque temps plus tard, eh bien, après avoir créé une nouvelle paroisse sur le plateau de Rechèvre, et qu'une nouvelle église va être érigée sur cette nouvelle paroisse en 1961, eh bien, 2 ans plus tard, la décision sera prise à la demande d'une grande partie du clergé de Chartres, d'ailleurs, de faire venir la dépouille de Franz Stock du cimetière de Thiers, donc au sud de Paris, dans cette nouvelle église Saint-Jean-Baptiste à Rechèvre.
Alors, les fidèles qui veulent venir se recueillir peuvent le faire tous les jours. L'église de Rechèvre est pratiquement ouverte tout le temps.
L'église de Rechèvre est ouverte tout le temps, oui.
Et pour visiter le séminaire des Barbelés, comment est-ce qu'on peut s'y prendre ?
Pour visiter le séminaire des Barbelés, il y a une ouverture systématique les mercredis et samedis après-midi. Et puis on peut autrement visiter sur rendez-vous. Il suffit simplement de téléphoner ou de prendre contact par mail, particulièrement pour les groupes. Hein, c'est recommandé de s'y prendre à l'avance.
Est-ce que des Allemands viennent se recueillir en Eure-et-Loire sur la tombe de Franz Stock ou viennent visiter le séminaire ?
Oui, il y a beaucoup d'Allemands qui viennent, beaucoup d'Allemands qui passent. Beaucoup plus d'ailleurs sur la tombe à Rechèvre qu'au séminaire proprement dit. Malgré ça, on a quand même noté cette année 2015 environ 1500 Allemands qui sont passés au séminaire. Maintenant, il en est passé davantage dans l'église de Rechèvre.
Notre émission se termine. Merci Monsieur Briand de nous avoir éclairé sur la personnalité de Franz Stock. Espérons que bientôt nous aurons des nouvelles de la Congrégation pour la cause des saints. Chers amis auditeurs, merci. Si vous voulez réécouter cette émission, elle sera disponible à compter de la semaine prochaine sur le site de Radio Grand Ciel et très rapidement sur le site de l'association Église Ouverte en Eure-et-Loire. Nous nous retrouverons dans un mois pour une autre émission. Merci de votre fidélité.